Vas-y.
Il était une fois un jeune étudiant qui était très malheureux. Rien qu'en regardant sa figure, on devinait bien pourquoi. Il était laid. Avait-il le nez rouge ou les cheveux verts ou les oreilles trop grandes? Avait-il les yeux de travers? On ne s'en rappelle pas. En fait, il était laid. Et comme il était laid, aucune jeune fille ne voulait l'épouser et il n'avait pas un seul ami. Lorsqu'il se présenta au concours de l'État, l'huissier lui interdit d'en franchir la porte. Mais pas question de devenir fonctionnaire avec une tête pareille. Les gens perdraient tout respect pour les mandarins. Même le roi, que le ciel le protège, en serait ridiculisé. Mais c'est trop injuste, pense l'étudiant en s'en allant tête basse. J'ai quand même pas choisi ma figure. Et puis, il se rappela une berceuse que lui chantait sa mère lorsqu'il était tout petit. Au pays de l'ouest, au pays des orages, il y a une montagne qui touche les nuages. La terre y rencontre le ciel étoilé, trois génies, toute réponse. Mais comment y aller? Je dois trouver cette montagne. Je l'escaladerai, je demanderai au génie pourquoi j'ai été affligé d'une figure aussi disgracieuse, se dit l'étudiant. Et il partit vers l'ouest. Il marcha longtemps, longtemps. Au début, il dormit dans des champs. Il craignait les moqueries de ceux qui l'accueilleraient dans les auberges. Puis, au fur et à mesure, les villages devenaient plus petits. Les distances devenaient plus grandes entre eux. La route devint vite un sentier très étroit. Et la route grimpait. Parfois, lorsqu'il faisait clair, on apercevait une montagne entourée de brumes. Les orages étaient de plus en plus fréquents et de plus en plus violents. Ça y est, je suis sur le bon chemin, se dit l'étudiant. Et voilà qu'un soir, un orage terrible se déchaîna. Le tonnerre gronda, les éclairs déchirèrent le ciel. L'étudiant était trempé jusqu'à l'os. En voyant une ferme isolée, il reprit courage. Il toqua à la porte. Un vieil homme aux yeux tristes lui ouvrit. En fait, il sembla pas du tout remarquer la laideur de l'étudiant. Il l'accueillit, il le nourrit. Il l'invita à se réchauffer auprès du foyer comme si l'étudiant était un visiteur de marque. Et le lendemain, voilà ce qu'il lui demanda. Excusez la curiosité d'un vieil homme, mais que faites-vous, un étudiant, dans ce pays perdu, si loin des écoles? Bien, je cherche la montagne où le ciel rencontre la terre. On dit qu'on y trouve réponse à toute question. Et moi, je voudrais savoir pourquoi je suis si laid. Le vieillard soupira. Chaque homme porte un malheur. Moi, par exemple, j'ai une fille unique que j'aime par-dessus tout, mais la pauvre est muette. C'est pour ça que j'habite loin de tout village, pour que ma fille ne sache pas qu'elle est différente des autres. S'il vous plaît, lorsque vous aurez atteint la montagne, pourriez-vous demander pourquoi ma fille est muette? Je vous apporterai la réponse à mon retour, promit l'étudiant. Et il continua son voyage. Maintenant, le sentier passe à travers une forêt sombre et épaisse. Il y a des oiseaux étranges qui se mettent à siffler, des serpents silencieux qui glissent le long des arbres. À la tombée de la nuit, lorsque l'étudiant se demandait s'il ne finirait pas dans le ventre d'un tigre, il arriva dans une clairière, devant une petite hutte, entourée d'un jardin merveilleux. Alors l'étudiant, bien sûr, il était un peu encouragé par l'accueil qu'il avait eu la veille. Et là, il frappa à la porte. Sois le bienvenu. C'est bien la première fois que j'ai un visiteur, s'écria joyeusement l'ermite. Entre, mais entre donc. Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'un étudiant se mette à parcourir cette forêt du bout du monde? Ah, je cherche la montagne où le ciel rencontre la terre, et je veux lui demander pourquoi je suis si laid. À chaque homme son malheur, dit l'ermite. Moi, je vis retiré et je pourrais être heureux. Ma grande joie, c'est mon jardin. Mais finalement, j'ai trois orangers. Je les soigne tous les trois avec autant d'amour. Mais il y a un arbre seulement qui porte des fleurs et des fruits, et les deux autres restent secs, comme si c'était l'hiver toute l'année. Alors si tu arrives au sommet de cette montagne, tu pourrais demander pourquoi deux de mes arbres chéris ne fleurissent jamais? Ah, je vous apporterai la réponse, promis, à mon retour, dit l'étudiant. Et le matin, à l'aube, il repartit. Maintenant, la montagne semblait toute proche, mais la route était encore longue. Il n'y a plus de forêt, le sentier a disparu. L'œil fixé sur la montagne entourée de nuages, l'étudiant grimpait parmi les rochers noirs et escarpés. Des traînées de brouillard flottaient dans l'air silencieux. Plus d'oiseaux. Seul un aigle s'élevait de temps en temps jusqu'à ses hauteurs. Et puis voilà que l'étudiant arriva devant un torrent bouillonnant. Les eaux étaient profondes, rapides, tourbillonnantes. Impossible de les traverser à gué ou bien à la nage. Et puis il n'y a ni barque, ni pont, ni tronc d'arbre. Le voyageur s'arrêta. Il s'assit sur une pierre. Il regarda le sommet. Des traînées de brouillard l'entouraient comme une ronde de jeunes filles moqueuses. Est-ce qu'il allait rebrousser chemin si près du but? Tiens, tiens, il y a 3 siècles que je vis ici, et voici le premier homme à parvenir en si haut, dit une voix étrange. L'étudiant sursauta. Il regarda tout autour de lui, mais bien sûr il ne vit personne. Mais là, dans l'eau, il n'y avait qu'une vieille tarpe gigantesque aux yeux écarquillés. Je me demande ce que tu cherches dans ce désert, dit la voix. Tandis que la carpe fait des bulles d'air, une pour chaque mot. Et bien que ce soit contraire à tout ce qu'il a appris sur les poissons, l'étudiant devait bien admettre que c'était la carpe qui parlait. J'essaie d'atteindre le sommet de la montagne pour poser une question. Pourrais-tu en poser une aussi de ma part? Volontiers, tu n'en riras pas. On s'est trop souvent moqué de moi pour que j'ose me moquer de qui que ce soit. Alors, monte sur mon dos, dit la carpe, et tout en nageant, elle ajoute. Toute carpe âgée de plus de 100 ans peut devenir un dragon. Il suffit qu'elle saute par-dessus le pont qui se trouve en aval, ce pont au dragon. Tous mes amis l'ont déjà franchi, mais moi seule, je n'y arrive pas. Ne t'inquiète pas, j'en demanderai la raison, je te le promets, dit l'étudiant en sautant à terre. Bonne chance, je t'attendrai ici, fit la carpe en agitant sa queue en signe d'adieu. Le jeune homme disparaît alors dans le brouillard. Et le voilà qui grimpe, en cherchant à tâtons son chemin parmi les rochers. Il escalade les parois lisses, il monte de plus en plus haut à travers les pierres et les nuages. Voilà le sommet, un petit balcon suspendu comme une barque dans le ciel. 3 vieillards semblaient y monter la garde. Et dis donc, puisque tu as entrepris ce voyage difficile, c'est que ta question doit être importante, dit le premier. Sa voix ressemble au vent du matin dans les bambous. Le ciel nous a envoyés à ta rencontre comme récompense pour ton courage et ta persévérance, dit le deuxième. Et sa voix ressemble au bruissement des cocotiers à midi. Nous te dirons ce que nous savons, dit le troisième. Et sa voix est comme la brise du soir sur la mer. L'étudiant les salua d'une révérence. Si la carpe ne m'avait pas aidé à traverser le torrent, je ne serais jamais parvenu jusqu'ici, pense-t-il, Et il demande en premier, pourquoi mon ami la carpe, qui désire tant devenir dragon, n'arrive-t-elle pas à sauter par-dessus le pont au dragon? Oh, c'est parce qu'elle a avalé une émeraude lorsqu'elle était jeune. C'est ce joyau qui l'attache à la terre, dit le premier génie. L'étudiant s'incline pour le remercier. Il va poser sa propre question et se rappelle tout d'un coup l'ermite jardinier. Et s'il ne m'avait pas hébergé, je serais peut-être mort. Alors il demande, pourquoi deux des orangers de mon ami l'ermite ne portent-ils ni fruits ni fleurs, alors qu'il les soigne autant que l'oranger qui en porte? Eh bien, c'est à cause de ce qui dort sous la racine, dit le deuxième génie. Ton ami se retira du monde. Il pensait trouver le bonheur près de la nature. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a très longtemps, un brigand enterra un trésor dans sa clairière. L'or tue la vie aussi bien dans les villes que dans les jardins. Et c'est l'or sous leurs racines qui empêche les deux orangers de fleurir. L'étudiant s'inclina à nouveau pour remercier. Il ne te reste plus qu'une question, réfléchis bien avant de la poser, murmura le troisième génie. L'étudiant s'apprête à poser sa propre question et tout d'un coup il se rappelle du vieillard triste qui l'avait accueilli pendant l'orage, le premier homme qui ne s'était pas moqué de lui ni écarté, et père d'une fille muette. Ne pas pouvoir rire et chanter, n'est-ce pas pire que d'être laid? Pourquoi la fille du vieillard est-elle muette? Demande-t-il. Sa voix tremble juste un tout petit peu. Parce que l'homme juste et lettré, l'époux dont elle rêve en silence, n'a pas encore surgi dans sa vie, dit le troisième génie. Et puis, tous trois disparaissent dans les nuages. L'étudiant frissonne. Il remarque soudain qu'il fait froid, sur ce pic balayé par les vents. Alors, lentement, tristement, il entreprend la descente. Et lorsqu'il arrive au bord du torrent, la carpe l'attend. Il paraît que t'as avalé une émeraude et que c'est elle qui t'empêche de sauter assez haut, lui crie-t-il. Ah, mais bien sûr, mais je l'avais complètement oublié, rit la carpe. Et lorsqu'ils ont atteint l'autre rive, elle crache le joyau aux pieds du jeune homme. Garde-la en souvenir de moi, elle te portera bonheur. Et puis, bondissant et frétillant de joie, elle entreprend son voyage de dragon. Le cœur serré, l'étudiant la suit du regard, jusqu'à ce que sa dernière bulle ait disparu derrière les pierres moussues du torrent. Puis il ramasse son cadeau et il continue sa route. Il fait déjà nuit, lorsqu'il atteint la hutte de l'ermite. Mais en entendant la réponse des génies, le vieil homme ne tient plus en place. Et sans attendre l'aube, il se dépêche d'aller vers les orangers et il bêche à la lumière de la lampe que tient l'étudiant. Et voilà le trésor parmi les racines. Pour moi, les fruits de mes orangers sont les plus merveilleux trésors, dit-il. Que veux-tu qu'un vieil ermite fasse de ses bracelets, de ses boucles d'oreilles? S'il te plaît, offre-les de ma part à celle qui sera ton épouse. Avec ma figure, ça m'étonnerait que j'en aie une épouse, pense l'étudiant. Mais il ne veut pas gâcher la joie du jardinier, alors il ne refuse pas. Et c'est ainsi que le lendemain matin, il quitte la hutte avec les bénédictions de l'ermite et un paquet de bijoux dans une main et dans l'autre quelques rameaux des orangers fleuris pendant la nuit. Ah, il traverse la forêt. Il descend vers le pied de la montagne et à la tombée du jour, voilà qu'il arrive à la ferme isolée de son premier hôte. Dans la lumière du soleil couchant, on dirait qu'elle est abandonnée. Il y a des herbes qui poussent sur le seuil et dans les fissures des murs. Dans la cour, il y a une jeune fille. Elle est vêtue d'une robe de soie fanée et elle distribue du crin au poulet. Ben, c'est probablement la fille muette. Elle a l'air si triste, pense l'étudiant. Il imagine alors la joie du père en apprenant que sa fille retrouvera la parole et épousera un grand lettré. Et soudain, il ne se sent plus si malheureux de ne pas avoir reçu de réponse à sa propre question. Il presse le pas et frappe au portillon. La jeune fille lève les yeux. Elle les ouvre tout grand d'étonnement. Elle laisse tomber son panier. Elle s'approche du portillon. Et l'étudiant a l'impression qu'elle ne marche pas, mais qu'elle glisse dans l'air comme un papillon. Que son sourire est différent de tous les sourires qu'il a jamais vus. Ni moqueur, ni provoquant. Un sourire chaud et doux, comme une lampe au crépuscule. Soyez le bienvenu, Seigneur. Nous vous attendions, dit-elle lentement. Sa voix est comme une clochette d'argent toute neuve, et elle rougit comme une pivoine. Et puis, vous allez me demander. Et puis, le père dansa de joie en entendant sa fille parler, et il la donna en mariage à l'étudiant, enfin heureux. Et puis, le regard plein d'amour de sa jeune femme persuada notre héros qu'il n'était pas si laid après tout. Ce qui lui valut un air si joyeux et un sourire si radieux que bientôt tout le monde le jugea une personne fort agréable. Bien que ni son nez, ni ses cheveux, ni quoi que ce soit d'autre ait changé, il n'était pas question d'écarter un homme si calme et si gai d'un concours ou d'une charge importante. Et le temps passa. Personne ne put jalouser ou flatter quelqu'un doté d'une tête si gentiment comique et si comiquement gentille. Et même pas lorsqu'il devint enfin Premier ministre.